Et Dieu vit que cela était bon. Pour mettre en résonance le texte biblique de la création du monde avec le discours scientifique sur l'univers. Une émission proposée par Ivar Drouel.
En ce temps de montée vers Pâques, relisons un texte biblique, le tout premier texte de la Genèse, ce fameux récit de la création du monde. Prenons le temps d'apprécier ce texte des origines. Écoutons ce récit poétique, ce récit riche de symboles et de sagesse. Écoutons-le comme un appel à s'émerveiller. En cette étape, les 7 jours de la création, le texte parcourt d'une façon progressive les structures de notre univers et de notre place d'humain en son sein. Ce n'est pas un texte scientifique ni une description historique, on le sait depuis longtemps, mais il appelle et réclame notre intelligence et il suscite notre réflexion. Le regard scientifique sur le monde est récent, disons à partir de Galilée, qui en s'appuyant sur le travail de Copernic et sur ses propres observations affirme que la Terre tourne autour du Soleil, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Ce fut à cette époque un choc, une rupture, avec une croyance largement partagée et défendue théologiquement par les autorités religieuses. Galilée, condamné en 1633, et évita de peu d'être brûlé comme Giordano Bruno en 1600 à Rome. Le pape Jean-Paul II, en 1989, reconnaît l'erreur de l'Église en déclarant « L'œuvre scientifique de Galilée, persécutée à l'origine, est à présent reconnue de tous comme une étape essentielle de la méthodologie de la recherche et comme une étape sur le chemin de la connaissance du monde, de la nature. » L'autonomie de la science par rapport à la démarche religieuse est acquise. Elle est à comprendre comme une chance, car elle permet le dialogue, l'échange, la réflexion. Le premier texte biblique de la création a probablement été écrit durant l'exil du peuple hébreu à Babylone, soit vers 550 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas le texte le plus ancien, et on le dit sacerdotal, car attribué à un prêtre de l'époque. Il s'ouvre aux interrogations des hommes sur le sens de leur existence. Ce poème, dit Jean Rigal, est une sorte de louange au Dieu créateur avec un appel « Porter sur le monde un regard positif. » Dans ce parcours, en 7 étapes, il ne s'agit pas d'opposer le récit biblique de la création et les connaissances scientifiques sur l'univers et son évolution. Il s'agit de favoriser une écoute propice à l'émerveillement pour ce monde qui accueille la vie et dont nous avons individuellement et collectivement à assumer le développement. La responsabilité de nos sociétés humaines sur le devenir de la planète n'a jamais été aussi forte. Des pays se réarment, réactivent comme une évidence la possibilité du feu nucléaire. La production des canons semble plus urgente que le développement de la recherche scientifique pour mieux comprendre le monde. Que ferons-nous? Laissons-nous toucher par ce texte qui nous montre un Dieu qui agit et qui aime sa création et ses créatures, un Dieu qui place l'homme et la femme au cœur de ce projet, afin qu'ils s'émerveillent de son œuvre et qu'ils la poursuivent dans l'amour, la confiance et la paix. Et Dieu vit que cela était très bon. Texte de la Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était absolu chaos, les ténèbres sur la face de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu frémissait sur la face des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Dieu vit la lumière, oui c'était bien. Dieu sépara la lumière des ténèbres, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc, depuis des siècles, ces textes de la création inspirent les artistes, car ces textes sont puissants, ils ouvrent les imaginaires, nourrissent des représentations fortes. Les artistes produisent des images, des musiques, des poèmes. Nous explorerons quelques-unes de ces œuvres. Commençons par ce monument musical, la création de Haydn. Haydn est un compositeur autrichien né en 1731, mort à Vienne en 1809, et il a créé cet oratorio de près d'une heure et demie en 1799. Un extrait, l'ouverture, le chaos originel. La force des accords en do majeur à l'unisson suivie de parties très calmes comme des espaces vides. Une belle image sonore, nous en écouterons d'autres. Il y a un artiste moins connu que Michel-Ange qui a réalisé 6 gravures sur bois, chacune représentant un des jours de la création. Il n'a pas représenté le jour du repos. Il s'agit d'Escher, Moritz Cornelis Escher, né en 1898, c'est un artiste néerlandais. Au cours de sa vie, Escher a réalisé plus de 100 lithographies et gravures sur bois et plus de 2000 dessins. Et on peut voir actuellement ses œuvres à Toulouse dans une exposition au Basacle. Et son premier tableau de cette série sur la création, en noir et blanc comme tous les autres, ouvre sur l'étrange. Parler d'un tableau à la radio est un peu illusoire, mais on peut évoquer l'émotion qu'il suscite. On voit un oiseau immense, massif, qui vole au-dessus d'une partie d'un globe. L'oiseau est imposant. Ce n'est pas une colombe. Son œil est perçant. Il porte le mystère. La masse qu'il survole semble bien inhospitalière. Le vol est comme suspendu et son œil nous regarde. Il vise au cœur. Une autre expression artistique, française cette fois, la création du monde de Darius Milhaud, ce musicien français né à Marseille en 1892. Il composait une musique originale, forte, lumineuse. Il a écrit la création du monde pour un ballet de danse classique et l'œuvre a été jouée au Théâtre des Champs-Élysées en 1923. Écoutons la douceur infinie de l'ouverture de cette composition. Maintenant, questionnons la science sur ce moment des origines. C'est le principe de cette émission. Ouvrons ce dialogue avec la démarche scientifique qui ne vient pas s'opposer au récit biblique, car en toute autonomie, elle se situe dans un autre champ de réflexion. Le discours actuel de la science sur la naissance de l'univers, c'est la théorie du Big Bang. Cette théorie n'est pas facile à comprendre. Tout commence il y a 13 milliards d'années. Le Big Bang n'est pas qu'une grosse explosion. On peut prendre l'image d'un ballon. Rien n'existe en dehors de ce ballon, ni le temps, ni l'espace. Il est toute la matière et l'énergie de l'univers à venir. Le Big Bang, c'est ce ballon qui se gonfle très rapidement. C'est l'univers en expansion. Quelques secondes après le Big Bang, la température est d'un milliard de degrés. C'est à ce moment-là que les premiers atomes apparaissent. L'univers continue son expansion, la température et la densité diminuent. Les électrons libres deviennent moins nombreux puisqu'ils forment des atomes. Cela libère les photons, la lumière apparaît. 380 000 ans après le Big Bang, c'est ce que l'on appelle le rayonnement fossile ou de façon plus savante le fond diffus cosmologique que l'on observe grâce à divers instruments. Aujourd'hui, Aucun autre modèle théorique que celui du Big Bang, aucune autre histoire n'est capable d'expliquer la totalité de ce que l'on peut observer dans l'immensité du ciel. Mais la question de l'expansion de l'univers a fait débat avant de commencer à s'imposer en 1929. C'est l'astronome américain Edwin Hubble qui prouve que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres. Il confirme alors que l'univers est en expansion. Mais en 1965, c'est tout à fait par hasard qu'une autre preuve en faveur du Big Bang a été découverte par Penzias et Wilson, deux physiciens américains. En travaillant sur une antenne, ils ont découvert le fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile. La découverte de ce rayonnement, qui était prédit dès les années 1940, leur a valu le prix Nobel en 1978. La théorie du Big Bang s'impose alors comme étant la solution pour expliquer l'univers tel que nous l'observons aujourd'hui. Ce fond diffus cosmologique est étudié actuellement et réserve encore, n'en doutons pas, beaucoup de choses à découvrir. Nous voici donc au premier jour de la création. Le chemin est encore long. La création est toujours en mouvement, au cœur de nos vies, dans nos cités et nos territoires. Nous portons en nous les atomes de l'univers et nous regardons ce monde qui plonge si loin. Saurons-nous le respecter et affirmer que cela était bon ?